Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant.
Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école.
Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change.
Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves.
Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Karine Bressan, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation que nous organisons tous les ans. Karine est docteure en neurosciences de formation. Après 15 ans de recherche, elle s'oriente vers l'accompagnement des personnes dans leur développement personnel et professionnel. Elle utilise, entre autres, une pédagogie innovante issue des neurosciences. Le Funny Learning, pour mettre l'apprenant et son cerveau au centre des apprentissages et proposer des animations participatives. Je vous souhaite une belle écoute.
Alors moi, je suis Karine Bressan et je vais vous parler ce matin de l'accompagnement de l'apprentissage pour donc ce congrès d'innovation en éducation. Alors d'abord, je me présente rapidement. Donc moi, j'accompagne des jeunes et des adultes dans leur développement professionnel en tant que coach, dans les domaines du bien-être au travail, des transitions professionnelles, de l'orientation scolaire et du apprendre à apprendre. Et je monte et j'anime aussi des conférences, comme aujourd'hui, avec le cœur, c'est le cerveau, parce que je suis docteur en neurosciences de première formation et je me passionne pour les mécanismes du cerveau. Et je m'intéresse particulièrement dans le domaine de l'apprentissage aux pédagogies innovantes, par exemple le funny learning, donc je vous dirai un mot tout à l'heure. Alors pour commencer, je voudrais qu'on branche nos cerveaux tous ensemble. Et pour ça, je vais vous proposer un petit exercice de respiration. Peut-être que certains connaissent, hein, c'est une respiration issue du yoga. C'est la respiration alternée. Donc on va, si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire, c'est pour ceux qui veulent faire l'expérience. Donc on va respirer alternativement avec une narine et puis avec l'autre. Donc vous pouvez mettre la main comme ça. Boucher une narine, là, par exemple la narine droite, inspirer par la narine gauche, expirer par la narine gauche. Ensuite, on change, on bouche la narine gauche et puis on inspire, on expire par la narine droite. Donc vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire 3 fois. Donc cet exercice permet de s'apaiser, hein, ça peut être bien, moi ça me fait du bien, là, ça fait baisser un peu le stress. Ça permet aussi de se concentrer, de bien câbler les deux hémisphères ensemble. Et comme on fait l'exercice ensemble, il est possible en plus qu'on se synchronise et qu'on augmente un peu la capacité d'attention, enfin j'espère au moins pour un petit moment, hein, c'est 10 minutes la capacité d'attention. Je vais essayer de relancer la machine régulièrement. Alors aujourd'hui, on parle d'apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est quoi dans le cerveau? C'est finalement d'établir des nouvelles connexions. Et ça, notre cerveau sait le faire, il le fait. C'est pour ça que François Jacob nous dit que nous sommes programmés, mais pour apprendre. Ce qui fait qu'on se lève tous les matins dans un homme différent. Effectivement, tous les matins, notre cerveau n'est pas le même que celui d'hier. Alors, ça, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on a tous un super pouvoir que moi j'adore, qui est la neuroplasticité. Donc la neuroplasticité, c'est cette capacité de notre cerveau effectivement à créer des nouvelles connexions, à en supprimer, à se remodeler, à changer des zones, à les adresser à une autre fonction, et également à pouvoir se régénérer dans certaines zones. Ça, c'est la neurogénèse. Donc, grâce à ça, effectivement, on va pouvoir apprendre et changer. Et finalement, l'apprentissage, c'est une neuroplasticité dirigée, puisque là, on va décider de faire certaines connexions à notre cerveau pour apprendre certaines connaissances. Alors, l'apprentissage, il y a des étapes. Hein, on a cette pyramide. D'abord, il faut avoir de l'attention. Ensuite, il faut comprendre. Ensuite, il faut apprendre. Et puis, il faut mémoriser. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on a appris quelque chose. Et là, je vais vous mettre, ce sont des phrases d'enfants, en fait, hein, qui savent très bien, finalement, ce dont ils ont besoin pour apprendre. Ils disent bien, j'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin de me concentrer. Quand je suis à côté de mes copains, je rigole et je n'apprends pas beaucoup. Et oui, parce qu'il ne se concentre pas, il n'est pas attentif. Ensuite, j'ai besoin de bien comprendre et j'ai besoin qu'on m'explique quand je n'ai pas compris. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas apprendre. Ensuite, pour apprendre, j'ai besoin d'avoir des contrôles. Hein. Donc, s'il y a des enseignants dans la salle, finalement, les élèves aiment les contrôles, mais vraiment pour apprendre. Par contre, ils n'aiment pas arrêter de nous faire apprendre par cœur les mots en bleu. Hein. Donc, il y a certaines manières d'apprendre plus sympas que d'autres. Et le par cœur les mots en bleu, apparemment, ça ne marche pas bien. Ensuite, il faut mémoriser. Et pour mémoriser, une des clés, c'est de répéter. Alors, je pense que Eric Gaspard, qui intervient après moi, va vous parler plus spécifiquement de ça. Moi, je me suis positionnée plutôt sur l'accompagnement de l'apprentissage. Et quand on accompagne un jeune qui est souvent en difficulté, hein, puisque s'il vient voir quelqu'un pour l'aider, c'est qu'il rencontre des problèmes, eh bien, déjà, il faut établir une relation de confiance, bien sûr, et il faut casser les codes. Il faut casser les codes de l'école, parce que souvent, il est enfermé dedans et il est dans l'échec, dans ces codes-là. Alors moi, j'utilise beaucoup, et ça vient du funny learning, les petits plus-plus, ce sont des petites pièces, un peu comme des Legos qu'on peut assembler, mais c'est vrai que c'est moins gros, c'est plus facile à transporter quand on travaille. Et puis, on peut créer tout ce qu'on veut, donc on suscite un peu la créativité. Moi, je mets souvent aussi des bonbons, des petits gâteaux, des choses un peu sympas. Mes enfants, d'ailleurs, me le reprochent parce que j'achète pas de bonbons pour eux, mais j'en achète pour le travail. Donc, alors, pourquoi ? Finalement, ça permet aussi de retourner, de faire un appel au monde de l'enfance. Et le monde de l'enfance, c'est un moment où on a envie d'apprendre. Les enfants ont envie d'apprendre. Les tout-petits-enfants ont envie d'apprendre parce qu'on a globalement envie d'apprendre. On peut le perdre. Donc, finalement, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de susciter le désir, déjà, le désir d'apprendre, de vouloir le faire. Alors, au niveau du cerveau, il y a un paradoxe, c'est que finalement, il y a un grand déterminisme génétique. On a tous à peu près la même forme de cerveau, ça varie un peu, mais on a quand même deux hémisphères, on a un cervelet, un tronc cérébral, etc. On a des fonctions qui sont les mêmes, hein, notre cerveau assure des fonctions communes. Et puis, on a parlé au début de neuroplasticité, donc il y a aussi une grande labilité. Finalement, chaque expérience va nous laisser une trace et donc chaque cerveau va se modeler différemment. Ce qui fait qu'on a une grande neurodiversité. Et moi, j'aime bien parler de neurosingularité, puisque finalement, on a tous un cerveau particulier. Et face à un jeune, c'est bien de lui expliquer ça, de dire « Ok, tu as ton cerveau avec toi, qui est capable de plein de choses, qui est capable d'apprendre, mais on va essayer de comprendre comment toi tu apprends. » Et finalement, on va essayer de lui apprendre à apprendre avec son cerveau à lui et de faire donc ce qu'on appelle de la métacognition. Alors tout ça, c'est bien, mais du coup, on a quand même beaucoup de cerveaux différents, donc beaucoup de capacités d'apprentissage différentes. Alors, il faut quand même s'appuyer sur des repères, hein, parce que sinon, ça serait vraiment compliqué. Alors, quand on travaille en individuel, c'est bien, parce qu'on peut aller quand même, justement, dans la singularité. Mais si on s'adresse à un groupe, etc., il faut pouvoir avoir des repères. Donc, dans le Funny Learning, c'est donc une pédagogie innovante issue des neurosciences qui a été développée plutôt pour les adultes dans la formation. Mais finalement, les piliers sont les mêmes hein, que pour les jeunes. C'est les piliers de l'apprentissage. Et c'est vraiment, on se base sur le fait que chaque cerveau va apprendre à sa manière. Et comment je fais dans un groupe pour m'adresser à tous les cerveaux? C'est un peu l'enjeu du Funny Learning. Et dans le Funny Learning, on va caractériser des styles d'apprenants. Alors, pour essayer de voir un peu ces styles, on va prendre l'exemple, je pense qu'il parle à pas mal de monde, c'est le montage du meuble IKEA. Hein ? J'entends que, que ça parle un peu dans la salle. Alors, le meuble IKEA, on l'achète et on se retrouve. Alors, il va y avoir ceux super enthousiastes qui vont se lancer dans le montage du meuble et ils n'auront pas vu qu'il faut 2 heures pour le monter. Alors là, dans le Funny Learning, donc on a une boussole des couleurs hein, issue de la méthode Four Colors. C'est ce qu'on va appeler les gens qui sont à dominante jaune, en bas à droite. Et eux, ils vont apprendre en échangeant. Eux, ils sont dans le contact, dans le lien. Donc il va falloir travailler en groupe, il va falloir faire des échanges, il va falloir que ça soit ludique. Ils aiment bien créer. Alors après, toujours notre meuble IKEA, on a ceux qui vont prendre la notice, qui vont la lire scrupuleusement, quitte à traduire du russe ou du polonais pour bien comprendre, qui vont faire l'inventaire de tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle comme ça? Moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien lire la notice au début. Alors là, c'est les dominantes bleues hein, qu'on voit en haut à gauche. Et c'est donc des gens qui vont aimer apprendre en pensant. Donc là, il va falloir analyser, faire des recherches, comprendre la logique des choses. Donc il faut leur présenter un peu des exercices où il va falloir essayer de penser. Après, on a ceux qui vont prendre ça comme un défi, le montage du meuble. Ils vont y aller à fond, quitte à devoir démonter, remonter, etc. Ça leur plaît. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font ça? Ouais, et ouais. Et ça, c'est les gens à dominante rouge. Donc, eux, il faut qu'ils fassent. Hein, c'est les gens qui apprennent en faisant. Donc, il faut résoudre des problèmes, il faut explorer, il faut agir. Et puis, on a ceux qui probablement vont s'y prendre tranquillement, sans stress, vont arriver à monter leur meuble jusqu'au bout. Ça, c'est les dominantes vert. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Moi, je suis aussi un peu comme ça. Je suis un peu bleu et un peu vert. Parce qu'on n'est pas figé, hein. On oscille quand même, mais on a une préférence. Et là, ceux-là, ils vont apprendre en observant. Donc eux, ils vont regarder, ils vont essayer de comprendre le processus. Ils vont suivre des consignes. Donc il faut donner des consignes très claires. Et il faut chercher le sens, il faut donner du sens. Pardon ? Effectivement, madame me dit, il y a ceux qui achètent tout fait pour ne pas s'ennuyer. Je crois même qu'on peut demander effectivement que quelqu'un vienne chez soi pour le monter. C'est une solution aussi. En effet. Donc voilà un peu comment on peut repérer un peu des styles d'apprenants et puis essayer de diversifier. Mais après, finalement, le mieux, c'est peut-être de demander aux jeunes, aux élèves, finalement, eux, comment ils voient l'apprentissage. Et j'ai une collègue qui est responsable pédagogique d'une école en Suisse qui a posé la question, alors c'est une école équivalente d'école primaire, qui a posé la question aux enfants, qu'est-ce qui t'aide à apprendre et qu'est-ce qui te gêne pour apprendre? Alors les enfants ont répondu sous forme de carte mentale, de mind map, absolument magnifique, hein, c'est vraiment presque de l'art. Hein. Et ils ont rempli tout ça. Alors là, on a « Personne parle à côté de moi quand je travaille » pour faciliter les apprentissages. « Je suis contente si c'est correct. J'ai peur si c'est pas correct. » Alors, on en a un autre aussi hein, qui est plus organisé. Alors lui, il lui faut son matériel. S'il a son matériel, ça va. Il doit être un peu bleu. Hein. Je ne le connais pas, mais on peut imaginer déjà, c'est très structuré. Alors, il y a aussi le professeur. Alors, il faut qu'il soit gentil, qu'il aime tout le monde de la même façon, qu'il explique bien. S'il est sévère, ben, ça ne marche pas. Ça ne l'aide pas à apprendre. Et puis, important de comprendre. Alors, lui a besoin de schémas, de répéter, faire des exercices, etc. Et j'ai une amie qui est enseignante en collège qui a posé la même question à ses élèves de 6e. Alors là, les cartes mentales sont moins riches, on va dire, en dessin. Alors peut-être les enfants ont moins l'habitude aussi d'en faire. Ou alors c'est l'âge, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils nous disent des choses, quand même. J'ai besoin d'être à côté d'une personne que je ne connais pas. Hein, on revient à celui qui, s'il est à côté de quelqu'un qu'il connaît, il discute et puis du coup, ben, il apprend pas trop bien. Besoin de manger beaucoup le matin, de dormir. Et par contre, besoin de faire des interros hein, pour, je pense, se positionner, savoir où on en est. Qu'on ne fasse pas l'interro. Oui, mais ça, c'est qu'on ne fasse pas l'interro. Le petit Z, là, c'est ça les empêche d'apprendre. Donc, elle, il faut qu'ils fassent des interros. Alors, il y en a qui sont restés un peu secs. Et il se trouve qu'en fait, ce sont des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, notamment des troubles 10. Alors finalement, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas rencontré les élèves. Alors je ne sais pas s'ils ne savent pas, eux, comment apprendre, ou s'ils n'ont pas osé parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont différents et qu'ils ne font pas comme les autres. Ça, je ne sais pas. Je pense que ça serait intéressant d'en discuter s'il y a des gens qui ont des réponses autour de ça. Alors il y a des enfants, par contre, qui ont osé dire de quoi ils avaient besoin. Alors, par contre, ouais, le... Ah. Voilà, c'est bon. C'est bon. Vous voyez les sous-titres ? Ah oui, on n'entend pas. On n'a pas le son, vous entendez pas du coup. Vous lisez les sous-titres. Alors, attends, on va arrêter le film. Je le remets. Ça marchait tout à l'heure. C'est toujours comme ça. Au dernier moment, ça ne marche plus.
When you tell me to try harder, even though I've
alors,
already tried as hard as I can.
Je le remets, non?
I actually ouais. Listen better.
Par contre, je comprends pas, on voit pas les sous-titres.
I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn.
Just my brain is kind of different. So this is what I'd like you to know about me.
I have to move. Or I really can't pay attention.
Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying.
C'est bon?
If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that.
It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can.
I actually listen better when I'm rocking in my chair.
When you give me a bunch of directions, I start to think, I will never remember all of this.
Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework.
So here's how you could maybe help.
Let me get up and move while I'm learning.
Let me look wherever I want when you talk to me.
Let me rock or slouch in my chair.
No matter what. Please don't take away my recess.
Give me a hug. I can do all by myself.
Make directions very short.
Just ask me, what does your brain need right now?
And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing.
Sincerely, Your student.
Your student.
Your student.
Your student.
Voilà, donc ils nous disent très bien de quoi ils ont besoin. Effectivement, ils savent que leur cerveau est différent, mais comme ils disent, il est vraiment exceptionnel. Donc finalement, quand on regarde ce que nous disent les enfants, eh bien, ils expriment très bien leurs besoins. Et on peut les recaler sur la fameuse pyramide des besoins de Maslow. Ils ont vraiment cette intuition-là, en fait, hein, parce qu'ils ne la connaissent pas. Enfin, peut-être certains, mais les plus jeunes, non. Et donc là, on va essayer de voir ensemble comment intervient le cerveau dans ses besoins. Pourquoi il y a ces besoins et pourquoi les enfants, finalement, savent très bien ce qu'il faut faire pour apprendre. Donc on va partir bien sûr de la base, donc les besoins physiologiques. Hein. Bien sûr, il faut manger, ça ils le savent, j'ai besoin de manger, sinon j'ai plus envie de travailler. Et j'ai besoin de dormir 6 heures au moins la nuit. Il y en a même qui ont mis j'ai besoin de dormir de telle heure à telle heure, etc. Ils savent très très bien en fait, hein. Même si des fois ils ne veulent pas se coucher, en fait ils savent qu'ils en ont besoin. Et là, je vais vous parler en particulier du sommeil. Alors, il y a une expérience qui a été faite dans une école anglaise de détox numérique, parce qu'avec le sommeil, notamment les adolescents, le problème, c'est les écrans. Et ils ont fait une semaine, donc, détox numérique sans aucun écran. Et voici ce que nous dit une jeune fille. « Normalement, j'écris une phrase, ensuite je consulte Snapchat, et j'aurais écrit la même phrase. Les devoirs qui devraient prendre une demi-heure prennent une heure et demie. » Cette semaine-là, j'ai fait les meilleurs devoirs depuis un bon moment et je n'étais pas fatiguée. Normalement, j'ai mon téléphone avec moi pendant une bonne heure avant de dormir. Cette semaine-là, j'ai mieux dormi et j'étais plus en forme le matin. Alors, le sommeil, il y a différentes phases hein, pendant la nuit et le sommeil évolue avec l'âge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'adolescence, en plus de tout le reste qui change, il y a aussi un changement au niveau du sommeil. Entre l'âge de 12 ans et l'âge adulte, on va perdre 2 heures de sommeil par nuit. Sauf qu'il y a quand même toujours de gros besoins. Donc il y a un déficit de sommeil qui s'installe. C'est pour ça que souvent les ados, le week-end, on ne les réveille plus. Ils se lèvent très très tard, mais ils en ont besoin parce qu'ils essayent de compenser. C'est un moment où ils ont des besoins assez forts. Et le problème, c'est qu'il y a la première phase qui change beaucoup, la phase de début de nuit. Et c'est souvent voilà, des difficultés d'endormissement. Et le problème, c'est que s'ils ont un smartphone sous la main, bah, ça ne va pas faciliter l'endormissement et ils vont perdre jusqu'à 1 à 2 heures par jour. Donc ça, il faut être vigilant, il faut essayer d'encourager les jeunes à ne pas le regarder, ce n'est pas évident. Moi, je sais que chez moi, le téléphone dort en bas, il ne monte pas dans les chambres. Comme ça, on a à peu près le contrôle. Alors, c'est un peu drastique, mais moi, je dis à mes enfants, je sauve votre cerveau. Bon, voilà. Pour l'instant, ils m'écoutent. Alors, le deuxième étage, le besoin de sécurité. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? J'ai besoin d'être bien dans ma peau, de ne pas avoir peur de prendre la parole. Alors, j'aime bien celle-là, être zen du cerveau, c'est-à-dire ne pas avoir de soucis en tête. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe justement dans la tête.
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres ?
C'est la rentrée ! Ouh, j'ai trop contente !
Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe !
Sans parler de cette odeur et de cette crasse ! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie !
Express yourself !
On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley !
Express yourself !
Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur.
Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots ?
Oh non, elle va pas faire ça ! Elle va nous interroger !
Express yourself !
Je suis trop triste pour marcher. Oh. Groupe de filles hyper cool à 2 heures.
Oh, allons leur parler !
Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment.
S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît.
Ah ça, ça donne la fritade.
Vous savez, vous êtes pas obligé de venir à tous mes matchs.
On a un énorme problème.
Quoi ? Tu plaisantes ? Je ne veux pas en rater un !
Alors là, c'est tout sous cool.
Express yourself !
Hé, tristesse ! T'as touché au souvenir !
Tu es sûre que ça va ?
Je sais pas trop.
Répare-le !
Laisse-moi lâcher !
La mémoire centrale ! C'est n'importe quoi !
Qu'on répond, là ?
T'es en panne, mais pourquoi tu t'es en panne ?
On est où, là ?
Attends, tu vas te perdre !
Sois positive !
D'accord, je suis positivement sûre que tu vas te perdre.
Comment s'est passé ce premier jour d'école?
Bouge, dépêche-toi.
Tout s'est bien passé, ok?
Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude.
Respire, on le s'énerve pas.
Accroche-toi.
Je ne crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit.
C'est pour ça qu'on a largué notre pilote d'hélicoptère brésilien.
Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Oh.
Voilà, alors, les émotions. Hein. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous encourage à le voir parce qu'il est vraiment bien fait. Et avec les enfants, en plus, c'est sympa. Donc voilà, ça, ce sont les aires cérébrales impliquées dans les émotions. Alors, je vous rassure, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que vous voyez que ça occupe pas mal le cerveau. Hein. C'est une partie assez importante. Donc, pour simplifier un peu, il y a trois structures un peu capitales, on va dire, et notamment l'amygdale, qui est une structure centrale dans le cerveau. Hein, ce n'est pas l'amygdale qui est dans le cou, et qui va, elle, servir un peu de porte d'entrée hein, au système émotionnel. Alors elle va être en lien avec l'hippocampe, qui est aussi une structure centrale dans le cerveau, qui est impliquée dans les processus de mémoire, d'encodage par rapport au contexte, de comparaison par rapport à ce qu'on a fait avant, etc. Et puis elle est aussi en lien avec le cortex préfrontal. Donc le cortex préfrontal, c'est le cortex qui est à l'avant de notre cerveau, hein, c'est le cortex pensant qui va prendre les décisions. Et toutes ces interactions vont faire qu'il va y avoir une réponse émotionnelle. Alors, c'est Damasio hein, qui s'est beaucoup intéressé aux émotions hein, et à la cognition, au lien entre les deux. Et effectivement, pour apprendre, il faut des émotions. Elles sont nécessaires pour l'apprentissage, mais pas toutes. Hein. Les émotions positives vont être vraiment facilitatrices, on va dire, mais les émotions négatives ne vont pas faciliter l'apprentissage. Hein. Par exemple, la peur ou le stress vont vraiment bloquer l'apprentissage. Alors pourquoi ? Parce que la peur et le stress, ce sont des réactions vraiment primaires. Et dans ce cas-là, c'est la survie. Hein. L'enjeu, c'est la survie. Et quand la survie est en jeu, l'amygdale, la petite structure dont on a parlé, va prendre le dessus. Et pour pouvoir faire quoi ? Soit se battre, soit fuir, soit rester figé, mais avoir une réaction très rapide. Et dans ce cas-là, eh ben, il ne faut pas réfléchir, parce que réfléchir, ça prendrait trop de temps. Et face à un T-Rex, si on réfléchit trop, on est mort. Donc l'amygdale, elle va inhiber le cortex préfrontal. Donc dans des situations de stress, eh bien, l'apprentissage va être bouleversé. Et on a Charles Darwin qui a fait une expérience. Lui, l'hypothèse, c'était que la raison était plus forte que l'affect. Hein. Donc l'affect, à l'époque, c'est les émotions. Maintenant, on parle d'émotions. Et il s'est mis, en fait, devant un terrarium avec une vipère dont la morsure est mortelle. Et il s'est dit, je sais que je ne crains rien, donc je vais rester devant la vitre, pas de problème, ma raison est plus forte. Sauf que quand la vipère a surgi pour le mordre, eh bien, il a reculé. Et il a dit lui-même, il a dit, je n'ai jamais reculé aussi vite. Et là, ma raison, elle n'est pas intervenue du tout. Et pourtant, il y avait la vitre. Mais sauf que c'est une réaction tellement instinctive que ça ne fonctionne pas. Et dans l'apprentissage, alors bien sûr, il n'y a pas des T-Rex ou des vipères menaçantes dans les salles de classe. Ou... enfin, j'espère en tout cas. Peut-être dans certains pays, hein. Quoique. Mais rien que l'anxiété, bah, l'anxiété... L'amygdale va prendre le dessus, elle va inhiber le cortex préfrontal et on va réduire les capacités d'attention, les capacités d'analyse. Donc rien que ça, eh ben, ça va troubler l'apprentissage. Même si on n'a pas une situation de survie en jeu, ben, on va quand même bloquer l'apprentissage. Voilà. Après, il y a aussi, j'aime bien cette petite image, il faut tenir compte aussi des émotions des parents qui vont influencer les enfants. Alors il semblerait que ça évolue. Hein, qu'avant, on s'en prenait aux enfants, maintenant, on s'en prend aux enseignants. Bon, je ne sais pas hein, s'il y a des enseignants, s'ils ont cette vision-là des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les enfants ? Eh bien, on peut déjà apprendre à reconnaître leurs émotions, à mieux les appréhender, notamment avec la méditation de pleine conscience. Hein, vous avez Calme et attentif comme une grenouille, que moi j'aime beaucoup, c'est pour les plus jeunes. Après, il y a aussi Jeanne Siofachin qui a écrit « Tout est là, juste là ». Puis bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est un peu dans l'air du temps. Mais ça a vraiment montré que bah, déjà, il y a une capacité de gestion des émotions. Souvent, ça calme les élèves, ça augmente les capacités d'attention. Enfin, il y a plein de bénéfices à faire ce type d'exercice. Et ça commence à venir dans les écoles. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Alors après, il y a aussi la gestion du stress, hein, parce que souvent, il y a du stress. Hein, il y a même des enfants mais qui ne peuvent plus aller à l'école, hein, qui se rendent malades de la peur d'aller à l'école. Donc là, on peut utiliser des techniques de gestion du stress. Par exemple, la cohérence cardiaque, qui est un type de respiration qui est assez facile à mettre en œuvre, hein, avec des jeunes. Et notamment la méthode du docteur David Hoare, qui s'appelle 365. Donc voilà quelques pistes à explorer. Alors on change d'étage. On va à l'étage de l'appartenance. Alors là, que nous disent les enfants ? Le travail en groupe, il y a plus d'idées. Et c'est bien d'avoir une bonne relation avec les autres élèves. Alors oui, parce qu'ils ont besoin de sentir appartenir à un groupe. Et là, je voudrais vous parler de la coopération. Et notamment parce que l'année dernière est publiée une étude faite par des chercheurs français, Camille Desmoliens et Driss Boussaoud, entre autres, qui ont découvert dans notre cerveau des neurones qu'ils ont appelés des neurones sociaux. Et ces neurones, qui sont les neurones en rouge, vont s'activer quand il y a la présence d'un congénère. Et ce qui est remarquable, c'est que quand il y a la présence du congénère, donc ces neurones vont s'activer, et en plus, alors là c'est avec des singes, le singe va mieux réussir la tâche qu'il a à faire. Il va être plus performant juste quand il y a la présence d'un congénère. Donc ça nous montre bien qu'on a quand même, nous sommes des animaux sociaux, et que le groupe va favoriser l'apprentissage et la performance. Alors, effectivement, vous voyez, et là j'ai pris l'exemple d'une carte mentale de tout à l'heure, les enfants, ils le savent, ils aiment travailler en groupe, tout le monde participe, ils sont très contents, ils ont plus d'idées, ils partagent, ils apprennent à connaître les gens. Alors par contre, attention, pas plus de 5 personnes, 3 personnes c'est bien. Vous voyez qu'ils sont très très précis, hein. Moi je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait il suffit de les écouter. Moi, j'ai ma collègue là, qui a fait en 6e, elle m'a dit que maintenant, elle va le faire à chaque début d'année. Parce qu'elle me dit, c'est fou. En fait, du coup, ça permet de voir quels sont leurs besoins et de pouvoir travailler avec eux. Et en plus, ils se sentent reconnus. Et ça, pour lancer la motivation, c'est pas mal. Alors, on monte encore d'un étage avec l'étage du besoin d'estime, de reconnaissance, du respect. Effectivement, j'ai besoin que personne ne se moque quand on se trompe. Le professeur aime tout le monde de la même façon. Le professeur est gentil. Et oui, et là, on rejoint aussi les émotions. Hein, c'est-à-dire que si le professeur engendre de l'anxiété et de la peur, l'apprentissage ne va pas être facilité. Alors, on peut apprendre sous peur pour un peu sauver ses doigts de la règle en fer, hein, qui soi-disant marche, mais on n'a pas des apprentissages très riches et très profonds avec ces méthodes-là, à mon sens. Alors là, je voudrais vous parler des neurones miroirs. Donc les neurones miroirs ont été découverts en Italie par l'équipe de Risolati de façon un peu incongrue, puisque les chercheurs étaient en train de réaliser des expériences avec des singes, et ils ont fait une pause et ils mangeaient des cacahuètes. Et ils se sont rendus compte que quand on enregistre l'activité des neurones dans un cerveau, en fait, on transforme en bruit. Donc, ils se sont rendus compte que d'un coup, ça crépitait dans le cerveau du singe. Et ils se sont dit, tiens, c'est marrant, puisqu'il ne fait rien, il est en pause, comme nous. Et en fait, ils se sont rendus compte que les neurones qui crépitaient, c'était les mêmes que ceux que eux utilisaient pour attraper les cacahuètes et les manger. En fait, le singe faisait dans son cerveau le même geste. Et c'est là qu'ils ont découvert ces neurones miroirs qui nous permettent effectivement d'être en lien. Et probablement, moi là, si je mangeais une cacahuète, et ben vous, dans votre cerveau, vous êtes aussi en train de faire la même chose avec vos neurones, sans faire le geste. Et ça, ça peut expliquer tous les apprentissages par mimétisme, par reproduction. Hein. Par exemple, les enfants qui apprennent à marcher, souvent c'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'ils marchent un peu du jour au lendemain. Alors ils font des essais-erreurs, ils tombent, puis d'un coup ils se lancent. Parce que finalement, ils ont préparé leur circuit à le faire, et surtout en regardant autour d'eux comment ça se passe. Alors il y a un chercheur indien, Vilianu Ramachandran, qui les a appelés les neurones de l'empathie. Pour lui, c'est vraiment ces neurones qui nous mettent en lien, qui nous permettent de savoir un peu ce qui se passe pour l'autre et de pouvoir intervenir en fonction. Donc une chose qui est bien pour accompagner les enfants dans l'apprentissage, parce que l'empathie et les émotions positives vont favoriser l'apprentissage, j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle « Apprendre à éduquer ». C'est la cocotte de l'empathie. Alors, je l'avais amenée. Alors bon, ma fille appelle ça les pouettes-pouettes. Hein, je ne sais pas, il y a plusieurs. Hein, donc c'est ces petites choses-là, où combien tu en veux et tout ça, et puis les couleurs. Et puis après, eh ben, il y a des choses pour favoriser l'empathie entre les enfants. Par exemple, là, défends quelqu'un qui est critiqué ou exclu. Des choses comme ça. Prends soin de quelqu'un. Aide une personne qui en a besoin. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, notamment avec les plus jeunes. Je pense que ça fonctionne assez bien. Oui, vous pouvez le trouver, c'est Apprendre à éduquer. Et on peut le télécharger, l'imprimer, c'est disponible. Alors après, je voudrais aborder, parce que bon, notre cerveau, les enfants nous l'ont dit, est vraiment fantastique, et moi je suis convaincue qu'il est fantastique, mais il y a quand même des limites. Hein. Par exemple, moi, si je lève le bras... Si quelqu'un qui mesure 1m90 vient à côté de moi et lève le bras, ben il va plus haut. Moi, j'ai une limite, je ne peux pas aller plus loin. Mon corps ne me le permet pas. Alors, je peux mettre des talons, etc. Mais il y a des limites. Et notre cerveau aussi a des limites. Alors là, je voudrais vous faire travailler un peu pour réveiller un peu tout le monde. On va faire un petit exercice. Donc, si vous voulez bien vous lever, ça va être plus facile. Alors, on va essayer... Alors, normalement, il faut étendre le bras comme ça. Ça va être un peu compliqué. Donc, on va le faire avec le bras, voilà, comme ça. Alors, on va partir avec le bras droit. Et puis, on va tourner vers la droite. Et puis, vous allez voir jusqu'où vous allez. Vous essayez de prendre un peu un repère pour voir jusqu'où vous allez. Puis, on revient. On va faire la même chose avec le bras gauche. On va tourner aussi. Alors, essayez d'éborgner personne. Et puis, vous regardez jusqu'où vous allez. Et puis, on revient. Et puis, vous pouvez fermer les yeux ou pas, comme vous voulez. Et vous allez vous imaginer que vous êtes transformé en un bonhomme en mousse, où il n'y a plus d'os qui gênent pour tourner. On pourrait même vous tourner plusieurs fois sur vous-même. Vous êtes complètement mou. On peut faire ce qu'on veut de votre corps dans tous les sens. On peut le tordre comme on veut. Et puis, on va recommencer l'exercice. Bah, vous avez bien visualisé que vous êtes un bonhomme en mousse. On repart avec le bras droit. Là, vous ouvrez les yeux et puis vous tournez et vous regardez jusqu'où vous allez. Et puis, on revient. On fait la même chose avec le bras gauche. Et vous regardez jusqu'où vous allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va plus loin. Qui est-ce qui est allé plus loin? Ouais, la majorité de la salle. Alors, effectivement. Alors, cet exercice, bon, vous pouvez vous rasseoir. Cet exercice pour montrer alors qu'on a des limites qui existent, mais aussi on a des limites qu'on se met tout seul. Puisque là, quand je vous fais visualiser que vous pouvez être souple, ben vous l'êtes. Alors que votre corps n'a pas changé, hein, on n'a rien changé du tout. Je ne vous ai pas transformé, je n'ai pas de baguette magique, rien. Donc ça, ça m'amène à vous parler de l'impuissance acquise, hein, qui a été développée notamment par Seligman. Et l'impuissance acquise, c'est quoi? Alors, j'ai mis cette image de ce film, Les grands esprits, que j'ai trouvé intéressant à ce propos-là, même si c'est un peu... Il y a certains clichés à des moments, mais c'est intéressant, c'est un professeur du lycée Henri IV à Paris, donc qui est habitué à avoir des élèves très haut niveau, très brillant, très bon, selon les critères admis, et puis qui se retrouve dans un établissement en zone difficile avec des élèves qui sont moins brillants a priori. Et il va travailler. Et dans ce film, ils expliquent l'impuissance acquise par l'expérience d'un brochet, donc un poisson prédateur, qu'on va mettre dans un bocal avec des poissons qui sont ses proies, sauf qu'il y a une vitre entre les deux. Alors le brochet, au début, il va vraiment essayer d'aller vers ses proies, de les attraper, etc. Puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Donc il arrête d'essayer d'attraper ses proies. Et puis on enlève la vitre. Eh bien, il ne va toujours pas chasser ses proies. En fait, il a ce qu'on appelle la résignation, c'est-à-dire qu'il a acquis qu'il ne pouvait pas y arriver. Donc, il n'essaye même plus, alors que ce serait possible. Hein ? Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'apprentissage. Parce qu'un élève qui pense qu'il est nul, ben, il ne va même plus essayer. Alors, effectivement, il va être nul, parce qu'il ne va pas essayer. Sauf qu'en fait, il est capable. Il va falloir redémarrer et surtout lui redonner confiance en lui pour qu'il puisse repartir. Alors, comment faire ? Là, j'ai eu récemment un jeune qui est en terminale scientifique, sciences de l'ingénieur, et avant les vacances, là, bac blanc, 4 sur 20 en physique. Et il me dit, c'est pas gagné pour le bac. OK. Et moi, je lui dis... qu'est-ce qui t'a permis d'avoir 4 sur 20 ? Qu'est-ce que tu as compris qui t'a permis d'avoir 4 sur 20 ? Puis ensuite, je lui ai dit, du coup, où est-ce qu'il faut que tu bosses pour augmenter ta note ? Et puis, de fil en aiguille, il me dit, t'as raison, en fait, j'ai une super marge de progression. Et là, on n'était plus à se dire, le bac, c'est pas gagné. On était à se dire, waouh, j'ai une marge de progression. Et oui, voilà. Parce que sinon, si on se dit le bac, c'est pas gagné, le bac, effectivement, il s'éloigne à vitesse grand V. Hein. Donc voilà, alors je pense que notamment Anne Blandin-Rabillet cet après-midi va vous reparler de cette impuissance acquise, parce que c'est quand même vraiment quelque chose, je pense, qui est très très prégnant dans les échecs scolaires notamment. Alors voilà, il faut encourager. Toujours encourager. Là, j'ai trouvé ça, donc une enseignante qui écrit sur les tables des petits messages pour encourager ses élèves. Je trouve ça super. Alors bon, ça doit prendre un peu de temps, hein, si on a 30 petits mots à faire. Mais sûrement, ça vaut le coup, de temps en temps, prendre ce temps-là. Donc au vieux, de leur dire, tu es nul, tu ne vas pas y arriver. Si, tu vas réussir. Bonne chance, etc. Et rien que ça, ça fait la différence. Alors après, il y a la façon aussi de communiquer avec le jeune. Alors là, je voulais vous parler, moi j'aime bien Faber et Maslisch, qui ont écrit entre autres « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » et qui ont fait un livre spécifiquement sur l'apprentissage « Parler pour que les enfants apprennent ». Et on va voir un exemple. Voilà, de passer d'une évaluation, donc là, « Ma course, monsieur l'entraîneur, c'était comment ?»« Fameux, tu es un coureur fantastique !» Et là, l'enfant, il se dit « Il se paie ma tête !» Un tas d'autres sont plus rapides que moi. Au lieu de dire ça, de passer à une description. Tu as mis moins de 6 minutes, c'est ton meilleur chrono. Et l'enfant qui s'y pense, je vais même courir plus vite la prochaine fois. Là, il est stimulé, il a envie d'aller plus loin. Là, un autre exemple. Tu n'as pas encore fait les deux derniers problèmes à ce rythme, tu n'y arriveras jamais. Et l'enfant qui s'y pense, je suis nul. Oui, j'y arriverai pas. En plus, c'est le prof qui me dit « je ne vais pas y arriver ». Et de lui dire, plutôt de décrire, c'est toujours dans ce type de communication, on utilise beaucoup la description, parce que du coup, il n'y a pas de jugement. Tu en as résolu plus de la moitié. Tu as fait 3 problèmes, il ne t'en reste que 2. Et l'enfant se dit « j'y arriverai ». Donc ça, c'est intéressant de se pencher sur ce type de communication qui rejoint un peu la communication non violente. Et qui est justement basé sur l'expression des besoins. On parle bien des besoins dans la communication non violente. Mais là, on va dire que c'est un peu plus simplifié et plus facile à utiliser avec les enfants. Mais vraiment, de retenir la description, c'est toujours bien, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur. On décrit ce qui est. Alors on arrive à le dernier étage de cette pyramide, la réalisation de soi, de se réaliser. Et là, on va parler d'orientation. Hein, parce que finalement, suite aux apprentissages dans le milieu scolaire, ben, on en arrive à cette question de l'orientation. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Alors, ce n'est pas tout. Hein, le métier n'est pas tout de la vie. Hein, on peut aussi faire beaucoup d'autres choses. Mais c'est une partie. Et autant faire un métier sympa. Hein, entre ceux qui veulent être pompiers, princesses, astronautes, et il y a celui qui veulent être heureux. Alors ça, c'est un super programme. Hein. Je pense que Julien Perrault ne nous contredira pas avec son film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et pour l'orientation, moi, je fais partie d'une franchise solidaire, un après-midi pour demain, dont vous entendrez parler cet après-midi par Anne Blandin-Habillé, qui est la créatrice de cette méthode, où justement, le point de départ, c'est de partir des besoins du jeune. Et c'est très intéressant, parce que moi, j'ai un jeune qui m'a dit « on ne m'a jamais posé cette question ». Hein, c'est comme aux élèves, quand on dit « qu'est-ce qui t'aide à apprendre ?», bah souvent, on ne leur a jamais posé cette question. De quoi tu as besoin ? Et dans le film, ils vous le disent, hein, « demande-moi de quoi mon cerveau a besoin ». Donc voilà, mais là, je ne vous en dis pas plus. Je laisse Anne, cet après-midi, vous révéler les secrets de la méthode. Et puis, à cet étage, eh ben, une fois qu'on est réalisé, on a la créativité. Alors, je voulais en parler, mais voilà, c'est un peu juste parce que je pense que ça fait une conférence en soi, parce que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Mais la créativité, dans le sens, c'est pas pour devenir Picasso, Van Gogh ou quoi que ce soit, c'est vraiment la créativité du quotidien pour finalement pouvoir s'adapter, toujours se remettre en question. Et la créativité dans le cerveau, c'est un processus et on l'a tous. Et on peut le développer. Et ça, c'est vraiment l'idée, peut-être, que je veux faire passer. C'est qu'on peut le développer. On peut le développer pour les enfants. Alors souvent, les enfants très jeunes ont une grande créativité. On voit à l'école maternelle, je trouve qu'on les incite beaucoup à être créatifs. Puis quand on passe à l'école primaire, ça s'arrête un petit peu. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est vraiment... ça nous permet de nous adapter et de nous réaliser. Je pense que dans le développement de soi, la créativité, ben, c'est un super outil. Alors, je vous parlais au début, moi, j'essaye vraiment de susciter chez les jeunes le désir d'apprendre. Hein, je pense que c'est vraiment la base. Et puis, à la fin d'un accompagnement, ben, moi, si j'ai réussi à transmettre le plaisir d'apprendre, je trouve que c'est une grande réussite. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à apprendre. Et je pense qu'apprendre, ça donne vraiment une capacité de s'adapter. Alors, je vous ai mis une phrase de Charles Darwin. Vous me direz, j'aime bien Charles Darwin, mais oui. Il a été beaucoup critiqué, mais il a fait aussi des belles choses. Et en tant que biologiste, j'aime bien le citer. Il dit, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, pas le plus intelligent, seulement celui qui est le plus adaptable au changement. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans notre monde qui bouge, eh ben donner aux enfants, aux jeunes, cette capacité de s'adapter, notamment par l'apprentissage, hein, parce que même on parlait d'orientation, mais il est peu probable qu'ils fassent un seul métier dans leur vie. Ils vont peut-être faire des métiers qui n'existent même pas encore, donc il va bien falloir à un moment apprendre. Et si on a ce plaisir d'apprendre, je pense que c'est une force vraiment très grande, hein, dans notre univers aujourd'hui. Voilà, ben moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça. J'espère que vous aussi. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci. Et je pense qu'on a le temps de prendre quelques questions.
Oui, exactement. Merci beaucoup. On va prendre 10 petites minutes pour des questions dans la salle, si vous en avez. Profitez-en. Hier, il y avait plein de gens frustrés. Alors, je vais prendre le micro. Ah, vous pouvez l'emmener à Alessandro, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Merci.
Ça me parle beaucoup avec ce que je fais dans mon travail. J'avais une question par rapport aux neurones miroirs et à l'empathie.
Oui.
Du coup, c'est très positif parce que ça permet le mimétisme, l'apprentissage, ça favorise en fait. Mais dans le cadre justement des confrontations à des situations négatives, à répétition, c'est peut-être de là aussi que les traumatismes se récupèrent. Comment se protéger justement et par rapport à ça ? pour des personnes qui sont plus voilà, dans l'empathie et qui ont cette capacité en fait.
Alors normalement l'empathie on ne va pas ressentir soi-même, on va être capable de savoir, enfin de penser ce que l'autre ressent, mais on ne va pas le ressentir soi-même. Après c'est vraiment je dirais un travail un peu sur soi pour ne pas soi-même ressentir dans ses pensées la même négativité. Hein, quand on est effectivement en tant qu'accompagnant, hein, que ça soit coach, psychothérapeute, etc., il faut effectivement pouvoir avoir une écoute empathique, c'est-à-dire que l'autre personne se sente vraiment écoutée en profondeur, et ça, on voit bien la différence hein, quand on écoute vraiment quelqu'un, mais sans s'identifier. Je pense qu'il fait la différence, c'est l'identification. Les neurones miroirs ne sont pas des neurones de l'identification. Ils peuvent nous mettre en lien. Mais après, c'est effectivement ce qu'on va faire de ce lien. Si on se laisse emporter, effectivement, par exemple, si on écoute des gens dépressifs et qu'on se laisse emporter nous-mêmes dans la dépression, mais ce n'est pas vraiment le neurone miroir qui va faire ça. Lui, il va permettre le lien, il va permettre l'empathie, mais il faut ensuite pouvoir être suffisamment soi-même distancié, de ne pas nous-mêmes ressentir la même chose. Là, c'était plutôt des exemples dans le comportement moteur. Hein. Donc, voilà. Oui. Alors, l'enfant, le truc, c'est que son système émotionnel, il est immature. Alors, lui, il prend tout puissance 10, quoi. Et il ne peut pas gérer. Hein. C'est pour ça qu'il va y avoir des colères, des choses, parce que c'est tellement fort, il faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Hein. Ce n'est pas le caprice ou quoi, c'est que le système émotionnel, il flambe. Quoi. Donc, chez les enfants, c'est compliqué. C'est compliqué.
Alors, bonjour, merci beaucoup pour votre conférence, c'était super.
Merci.
Moi, je travaille avec le disque de Marston sur les couleurs, justement.
Oui, avec le Four Colors est proche hein, du disque.
Du disque, oui. Et justement, en fait, moi, je travaille sur justement réapprendre au cerveau à fonctionner différemment de leur fonctionnement habituel. Donc, justement, à multiplier les façons d'apprendre des personnes que j'ai en face de moi. Et donc, du coup, ça me pose la question de me dire, est-ce que cette façon d'apprendre en échangeant, en pensant, en faisant ou en observant, pour vous, elle est innée ou justement, elle est acquise dans les premières années et que, du coup, le fait de les confronter à cette façon d'apprendre-là va finalement les enfermer dans cette façon-là? Ou est-ce que c'est plus important de se dire que, en fait, non, c'est pas inné et du coup, on peut apprendre de plein de façons et il faut les ouvrir aux autres façons?
Alors, on peut effectivement apprendre de différentes façons. Alors, c'est toujours le risque quand on utilise comme ça des modèles, c'est de se dire, bah, ça y est, moi, je suis bleu, je suis jaune, c'est fichu, je suis dans une case. Il faut toujours imaginer que c'est dynamique. En fait, dans l'apprentissage, il y a des préférences. C'est pareil, hein, il y a tout le système, on est kinésique, kinesthésique, visuel, auditif. En fait, on n'est pas ça, c'est une préférence, parce qu'il a été clairement montré que même quelqu'un qui se dit bah, « moi, je suis auditif », il va très bien apprendre en visuel. Mais il préfère l'auditif. Donc, je pense qu'on a quand même une palette de capacités. Après, ça se construit dans l'enfance parce qu'il va y avoir beaucoup la notion de plaisir. C'est-à-dire que l'enfant va refaire quand ça lui fait plaisir et il va refaire la même chose parce qu'il va ancrer des connexions dans son cerveau. Après, on voit qu'avec la neuroplasticité, on peut remodeler ça. Mais je pense quand même qu'on a des préférences et qu'on les garde un peu. Mais après, on peut s'ouvrir à d'autres choses. Oui. Et aussi, selon les situations, on va pouvoir agir différemment. Hein. Alors, je ne sais pas dans le disque, mais dans Four Colors, c'est vraiment ça. C'est de se dire, il y a aussi des comportements qu'on va mettre en œuvre dans certaines situations ou face à certaines personnes où on va pouvoir mobiliser d'autres capacités. Moi, je pense qu'on peut toujours apprendre d'autres façons de faire.
du coup, je rebondis sur ce passage-là. Je suis là. Okay. Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour.
J'ai appris plein de trucs, c'est plaisant, effectivement. Moi, j'interviens plutôt en entreprise, en fait.
Oui.
Et du coup, le modèle que vous présentez, effectivement, sur les dominantes, ma question porte sur dans quelle mesure ça a un impact ou pas sur la constitution de groupes de travail, ce modèle. C'est-à-dire qu'en gros, je vous fais 2-3 scénarios. Est-ce que finalement, une fois qu'on a identifié si on est bleu, rouge, jaune, on fait un groupe où ils sont tous entre bleus ou au contraire, on mixe? Ou non, c'est pas un critère, et puis c'est pas grave, on connaît juste. Enfin voilà, est-ce que vous avez une recommandation à faire sur la constitution des groupes qui ensuite vont être amenés à travailler ensemble ?
Alors moi, je pense qu'il est toujours mieux de mélanger, parce que là, on va s'appuyer après sur l'intelligence collective, et c'est dommage d'avoir qu'une seule intelligence. Donc je pense qu'il vaut mieux mélanger. Et surtout, voilà ce qu'on disait avec monsieur, c'est de pouvoir aussi apprendre à agir autrement, justement, en se confrontant aux autres, de pouvoir se dire, ah ben oui, tiens, lui, il va penser, parce qu'il y a, par exemple, le bleu qui va penser à tout, alors lui, il va faire le super truc, puis il y a le rouge qui va dire, bon, ok, c'est bien sympa, mais on y va. Et il en faut. Il en faut, par exemple, dans une équipe, il faut celui qui dit, bon, allez, les gars, là, il y en a marre, assez discuté, on fonce. Mais il faut quand même, derrière, celui qui vérifie qu'on a bien tout fait. Hein ? Parce qu'avant de donner le produit au client, qu'on n'ait pas oublié une étape. Hein ? Et puis, il y a celui qui va être dans la relation avec le client, etc. Donc, non, moi, je pense qu'il vaut mieux mélanger, au contraire. Et se servir de ça pour aussi aider les gens à comprendre que c'est une force de mélanger. Et qu'on peut aussi s'adapter hein, dans la méthode Four Colors, on fait ça, c'est de s'adapter aussi à la situation, s'adapter en face à la couleur de l'autre, etc. Non, c'est plus riche de mélanger.
Oui, bonjour. Je reviens sur quelque chose que vous avez présenté au début de votre conférence. Vous avez présenté les étapes de l'apprentissage.
Oui.
Être attentif, comprendre, apprendre et mémoriser.
Oui.
Moi, j'ai l'impression que dans la majorité des cas, on commence d'abord par apprendre avant de comprendre et qu'il faut du recul et apprendre peut-être plus de choses pour comprendre. Est-ce que ça ne peut pas être un blocage pour certains élèves de vouloir absolument comprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre alors que ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir la compréhension pour apprendre ?
Alors, il faut, moi, je pense qu'il faut quand même comprendre pour apprendre. Mais surtout, il faut le cerveau, il a besoin de savoir pourquoi. Parce que déjà, s'il ne sait pas trop pourquoi il le fait, il ne va pas être attentif. Hein. Il va se dire, oula, ça, je ne sais pas si j'en ai besoin, donc je l'efface. Je pense que Erin Gaspard vous en parlera hein, du cerveau qui efface. Donc, il faut au moins qu'il comprenne à quoi ça va lui servir. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Après, moi, je reste quand même convaincue que comprendre, c'est important. Je ne pense pas qu'il y ait un apprentissage durable où l'élève va vraiment pouvoir s'approprier les choses s'il n'a pas compris. Alors, on peut faire une alternance, hein, peut-être d'abord commencer à apprendre, mais il va falloir avoir cette phase, je pense, qui est incontournable. Je ne sais pas si ça répond à votre
dernière question.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci. Moi, ma question, c'est sur les neurones miroirs.
Oui.
Je voulais savoir si ça part du préfrontal.
Est-ce que oui, ils sont dans le cerveau frontal, voilà, hein, les frontal. Neurones miroirs.
Voilà. Alors, ma question, est-ce que ça s'identifie avec la télépathie ? Est-ce que ça peut être une zone miroir, la télépathie ?
Alors là, je peux pas vous répondre, non. D'accord. Je ne connais pas le sujet.
Parce que depuis que j'entends parler des zones miroirs, moi je suis commerciale depuis 40 ans, et j'ai identifié qu'en fait, je peux répondre aux questions avant qu'on me les pose. Donc je me suis dit, ok, tu es peut-être un peu télépathe.
Voilà. Ah, vous êtes peut-être très empathique.
Ou très empathique, mais je ne connaissais pas le terme comme ça. Et je me suis rendu compte que peut-être je sais plutôt utiliser les zones miroirs, les neurones miroirs.
Peut-être.
Voilà, et que je me comprends, que je m'identifie à la personne à qui je parle. Et donc, systématiquement, j'ai toujours les réponses, parce que moi, j'ai peut-être un peu plus le côté, je m'imagine un peu plus empathique. Donc, ils me disent, mais comment vous savez ? Mais en fait, je viens de comprendre que c'est plutôt que j'utilise...
C'est possible, hein, je ne sais pas exactement, voilà. Mais effectivement, ce qui a été montré par rapport aux neurones miroirs, c'est que des personnes qui ont des problèmes de relations sociales, hein, dans des troubles autistiques, par exemple, etc., il y a des défauts de fonctionnement dans ces zones-là. Et justement, qu'il n'y a pas cette capacité d'empathie, donc la difficulté de lien à l'autre. Alors, vous êtes peut-être très empathique.
Très développé.
Peut-être.
J'ai pas pu apprendre, j'ai pas pu apprendre. J'ai pas pu apprendre, mais c'est la seule voie qui m'a permis d'arriver.
Tant mieux.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci
pour cette intervention éclairante.
Merci. Merci.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.